Grande Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Tchatch, l'émission de la rédaction du Ravi en partenariat avec les 3-8 Radio Grenouille. Le Ravi, c'est votre mensuel régional dans tous les kiosques, les premiers vendredis du mois, mais également sur internet www.leravi.org. Aujourd'hui, c'est le conseiller général et maire du 11-12, Robert Assante. Bonjour.
Bonjour.
Robert Assante, vous connaissez le Ravi, vous êtes abonné ?
Je connais leur avis, je ne suis pas abonné et je le lis.
Ben vous passerez à la caisse à la fin de l'émission.
Pourquoi vous payez les interviews ici ? Merci.
Une émission présentée par Michel Guiraud et Rafi Hamal. Une tradition, Robert Assante, dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guiraud qui s'y colle.
Le choix de l'invité de la Grande Tchatch ne relève jamais du hasard. Ce mois-ci, c'est l'actualité cinématographique qui nous a inspirés. Sur nos écrans déboule en effet un nouveau film de super-héros, Thor. Je résume l'intrigue. Thor est un guerrier aussi puissant qu'arrogant, dont les actes téméraires déclenchent une guerre ancestrale. Banni et envoyé sur Terre par son père Odin, il est condamné à vivre parmi les humains. Quel élu pouvait rivaliser avec pareille divinité ou pouvoir tellurique s'opposant à maintes reprises à son père, dont les plans lui paraissent souvent froids et cruels ? Quel élu mène à ce jour un combat aux accents shakespeariens ? Robert Assante, bien entendu. Longtemps, vous n'avez pas semblé prédestiné à lever l'armée de la dissidence. En 83, à 31 ans, vous devenez conseiller municipal de Marseille. Jean-Claude Gaudin vous choisit comme adjoint dès son premier mandat. L'assainissement, le traitement des déchets, le tri sélectif, la gestion de l'eau à la mairie puis à la communauté urbaine, c'est vous. Autant de sujets brûlants à Marseille. Mais comme le dieu du tonnerre, le feu ne vous fait pas peur. Bien au contraire. Car vous êtes en quelque sorte le papa de l'incinérateur qui orne désormais Fos-sur-Mer. Vous êtes souvent préposé aux combats difficiles, comme en 2008 où l'on vous demande d'aller ferrailler dans le canton des Trois-Luc contre le dernier héritier de la famille Masse, ce que vous faites avec succès en renvoyant Christophe à ses études. Pour service rendu, vous voilà investi la même année maire du 6e secteur, celui des 11e et 12e arrondissements de Marseille, pour remplacer le député Roland Blum dont vous êtes le suppléant. Justement, vous aimeriez bien, vous aussi, un jour devenir député. Justement, vous en avez marre d'attendre sans cesse votre tour. Justement, vous ne supportez plus de voir les ténors locaux de l'UMP se mêler sans cesse des affaires internes et des investissures du petit nouveau centre auquel vous vous êtes rallié. Thor, le fameux Thor, pour combattre les super-vilains, les réduit en miettes à coups de marteau avec sa force surhumaine. Vos représailles sont plus mesurées. Vous investissez sous l'étiquette Union pour la démocratie et la liberté deux candidats dissidents au cantonal. Ils obtiennent un score, disons, modeste, autour de 5%. Qu'importe. Vous annoncez votre candidature aux législatives en 2012 face à Roland Blum. Vous voilà suspendu de nouveau centre et montré du doigt par vos anciens amis de l'UMP. Qu'importe. On vous prête maintenant l'intention de rejoindre les troupes de Jean-Louis Borloo. Alors là, on s'incline, parce que si Thor fait alliance avec Wolverine, pas de doute, cela va barder.
Robert Assante, une réaction bravo à ce portrait. Je rappelle que Michel Guiraud se produit régulièrement à la criée.
Donc bravo, j'ai pas grand-chose à dire. D'ailleurs, c'est dit, il y a beaucoup de vérité, mais dit avec beaucoup d'humour. Il y a deux choses que, si vous m'autorisez à dire. Thor, c'était pas mal joué, je trouve que c'est pas mal fait. Mais je suis pas arrogant. Ce que vous avez dit de ce qu'est Thor, je ne crois pas l'être, et dans tous les cas, si un jour je l'étais, j'aimerais qu'on me ramène sur Terre. Et dans tout ce que vous avez dit de mes délégations, mon parcours un peu raccourci, mais très bien fait, j'avais aussi les espaces verts et les espaces naturels, puisque M. Tessier oublie très largement que celui qui a initié le GIP des Calanques, c'était moi quand j'avais la délégation de l'environnement, les espaces naturels et les espaces verts, et qui a mis en place le premier GIP qui fait qu'aujourd'hui on va peut-être avoir un parc. Mais c'est super, hein, vraiment très très bien. Je sais pas si l'alliance avec les radicaux multipliera non pas par deux la puissance mais par 10, ça l'avenir nous le dira.
Alors Robert Assante, justement, vous êtes tout suspendu du nouveau centre en lévitation, vous situez où aujourd'hui à l'heure où l'on parle? Vous attendez la décision d'Hervé Morin?
Je ne vais pas vous surprendre en vous disant que je me situe au centre. Et donc,
il y a beaucoup de monde en ce moment au centre. Hein.
Oui, c'est bien. Ce qui veut dire que nous sommes une grande famille et qu'il ne reste plus qu'à nous rassembler pour que nous soyons une vraie force politique qui peut jouer de mon point de vue, une solution alternative à droite. Aujourd'hui, avoir l'UMP orgueilleuse, prétentieuse, droit dans ses bottes, qui a toujours raison, alors que la plupart du temps, ils sont à côté de la plaque. Moi, je crois fortement au centre. Alors que le centre s'appelle Hervé Morin, Jean-Louis Borloo, ou autre, qu'importe, dans tous les cas il ne faudrait pas qu'il y ait 3 ou 4 candidats du centre parce que là ça amène la décrédibilité.
Mais quand même vous semblez découvrir un truc qu'on a vu nous depuis longtemps, enfin, ce nouveau centre là, il a toujours été quand même très lié structurellement, financièrement, politiquement à l'UMP. Que l'UMP se mêle sans arrêt de ses affaires, c'est constitutif.
Vous êtes, vous, par votre naissance, lié à votre famille. Et c'est pas pour autant que vous entretenez toujours les meilleurs rapports du monde avec votre frère, avec votre sœur, votre beau-frère ou votre belle-sœur. Et c'est pas pour autant que vous changez de famille. Donc on est dans les mêmes conditions. Je crois qu'il y a des talents au centre qui sont étouffés par l'UMP. Il faut les laisser émerger. Et il faut que l'UMP arrête cette dimension hégémonique des « j'ai toujours raison ».
On reviendra à la dimension dite hégémonique.
Si je l'espère bien qu'on y reviendra.
Hégémonique de l'UMP, revenant à votre cas particulier aujourd'hui, vous en êtes où exactement vis-à-vis du nouveau centre? Alors vous êtes suspendu, c'est une sanction disciplinaire, il va y avoir quoi prochainement? C'est l'exclusion?
Je vous ai répondu, je suis au centre, je vous ai répondu ça en toute sincérité, pas en langue de bois, c'est parce que je suis incapable de vous dire ce qu'ils vont vouloir faire demain. Ils font des déclarations à la presse puis ils me disent rien à moi, je reçois aucun courrier, aucune invitation à me justifier, rien du tout, j'ai pas l'impression d'avoir une bande de courageux en face de moi qui me demande quoi que ce soit.
Alors, je rappelle que c'est Bruno Genzaneux.
Je siège au groupe du Conseil Général où il y a
Ils vous ont pas exclu de ce groupe-là.
Non, pas du tout, puisque j'étais intervenant au Conseil Général en leur nom, puisque nous appelons maintenant, je crois que je dois y être pour quelque chose, UMP, Nouveau Centre et Apparenté. Tout le monde a oublié le côté apparenté, mais je crois que le seul qu'on doit avoir dans cette catégorie, c'est moi. Donc je ne sais pas dire à leur place, donc il faut demander à Hervé Morin, il faut demander au Bureau National qu'ils envisagent de faire, mais moi je suis centriste dans l'âme, donc dans tous les cas qui m'exclut ou qui m'exclut pas, qui me garde en suspension ou en lévitation, peu m'importe, moi je fais mon choix, je fais mon travail, je suis proche de la population et j'essaye même de démontrer que tort est toujours présent sur les grands dossiers marseillais.
Alors je rappelle que vous avez été battu par Bruno Genzana en 2010 lors de l'élection interne départementale.
Non.
Il n'y a pas eu de vote ?
Non, il n'y a pas eu de vote. Je ne me suis pas présenté compte tenu de l'organisation qui avait été mise en place avec une main très présente de Jean-Claude Gaudin sur ce nouveau centre marseillais qui a refusé l'indépendance que je leur proposais.
Alors vous êtes en opposition sur la stratégie à tenir vis-à-vis de l'UMP et on y arrive ?
Absolument.
Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement vis-à-vis de cette UMP ? Une indépendance totale, une indépendance à géométrie variable, comme le préconise Bruno Genzana ?
Non. Lui, c'est ce qu'il veut, c'est avoir l'investiture UMP Nouveau Centre à Aix. Il est prêt à sacrifier tout le reste pour avoir cette investiture sur une circonscription aixoise pour que Christian Kerr ne soit pas candidat ou que Marie-Zoë Lassin ne soit pas candidate. Donc c'est vraiment une aventure personnelle. Moi, ce que je dis simplement, c'est que au-delà de l'hégémonie UMP, écoutez-nous. Et si vous ne nous écoutez pas, si vous ne tenez pas compte de ce que nous voulons dans nos projets, dans nos idées, dans le développement de la ville, alors nous ferons des candidatures séparées et vous vous rendez compte que la population, certes, peut vous soutenir de manière plus nombreuse, mais nous ne sommes pas à 1 ou à 2%. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce n'est pas un score extraordinaire qu'ont fait mes deux candidats, mais par rapport à l'UMP, je trouve que c'est pas mal. Parce que dans le quartier de Saint-Barnabé, droite-droite, ou au municipal sur ce canton, on le ramène au niveau du canton sur les élections municipales de 2008, fait 50%. Ils ont fait 24%. Il n'y a pas de raison d'être fier. Moi, je fais presque 6. C'est inespéré.
Je rappelle aux auditeurs qu'au dernier cantonal, vous avez mis vos menaces à exécution, puisque vous avez libellé des candidats, votre premier adjoint notamment, qui eux ont été carrément exclus du nouveau centre.
Tout à fait. Alors, mais justement, ils viennent de recevoir un document pour leur demander de bien vouloir soutenir le nouveau centre, apporter leur contribution financière et participer aux travaux de réflexion. C'est en quoi certains leur ont fait des réponses claires, par écrit, qui, je crois, ne manqueront pas d'interpeller les Parisiens. Mais je reviens donc sur les élections cantonales, parce que pour moi c'est extrêmement important pour l'avenir. On m'avait prédit que je ferais 2%. Et eux devaient se situer aux alentours de 40%. Donc c'était un rapport de 1 à 20. Je vous rappelle que le rapport, là, est de 1 à 4. aujourd'hui. Donc on est repositionné différemment, et j'ai un autre candidat sur le canton de la Paume. Et le canton de la Paume, si on prend la partie du 11e arrondissement, parce que le canton de la Paume, moitié 10, moitié 11, je fais plus de 8%. Les candidats font plus de 8%. L'UMP fait un peu plus de 12%. Il devrait ramener à beaucoup plus d'humilité et de modestie.
Alors comment on passe justement d'une simple primaire aberrassante, comme il y en a dans tous les partis, à une vraie guerre fratricide avec aujourd'hui une exclusion et votre mise un petit peu à l'écart de la vie politique locale?
Mise à l'écart, je suis d'accord avec ce que vous dites. Guerre, non. J'essaye d'exprimer mes idées. Si la population ne percute pas par rapport à ça, ben j'en tirerai les conclusions. Comment on arrive à ça? De déception en déception. De promesses non tenues. De manipulation.
Votre malaise a commencé au régional. Hein.
Mon malaise a commencé en 2005.
Bien avant les régionales.
Bien avant.
Mais enfin, les régionales,
c'était très
avez...
interne. Les régionales, c'est là où j'ai fait un coup de colère, oui, parce qu'on m'a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Et on a essayé de me manipuler, j'ai refusé cela.
Vous avez eu 5 places, hein, le nouveau centre a eu 5 places sur les, oui, la liste de M. Mariani.
C'était pas ça le deal. Le deal avec Jean-Claude Gaudin, c'était sur Marseille d'avoir des candidats. Donc on était d'accord pour les 10 premiers. Pas de candidats dans les 20 premiers autres que ceux qui ont été retenus. Et mettre des Marseillais. Et en l'espace de 8 jours, il y a eu l'interférence de tous les caciques UMP pour dire on les relègue et on ne me donnait plus que 2 ou 3 places entre la 40e et la 49e place.
Non éligible donc.
Oui. Dans tous les cas, nous savions que nous n'allons pas gagner les élections régionales. Donc déjà, au-delà de la 20e place, rien n'était assuré pour personne. Et on n'a même pas voulu faire ça. Donc c'est ce qui a radicalisé la position. Et surtout quand on en a pris l'engagement. Donc quand on prend l'engagement de faire et qu'on ne fait pas et qu'on n'a pas le courage de me le dire, c'est-à-dire que c'est par la bande que je la prends, c'est entraîné effectivement une grosse colère.
C'est qui la bande?
Ben, ce sont en grande partie les parlementaires marseillais, dont M. Blum.
D'accord, Blum, Tian, Renaud Muselier, Guy Tessier.
Tian ne s'occupe pas de ses affaires. Tessier ne m'a jamais fait de cadeau depuis 30 ans, je ne vois pas pourquoi il commencerait à m'en faire aujourd'hui. Valérie Boyer, qui a une détestation pour moi. Oui, celle-là, elle vient d'arriver, c'est-à-dire que nous, on a travaillé pendant 30 ans, elle vient de récolter, et puis elle donne des leçons à la terre entière, puisque ce que vous ne savez pas, c'est qu'un jour, elle a exprimé qu'elle pouvait être candidate aux élections municipales, quand même.
Mmh. Pourquoi pas, l'avenir est aux femmes.
Bah oui, donc il faut faire attention que Sarkozy, il faut lui transmettre l'information que si elle veut se présenter à l'élection présidentielle.
Michel Guéraud.
D'accord. Et ceux qui vont vous dire à droite, ils ne vont pas s'en priver, à l'UMP, qu'en fait tout ça c'est un problème d'ambition et pas d'idée, et que c'est parce que vous n'avez pas les investitures que vous souhaitiez avoir, que vous manifestez. Vous répondez quoi?
C'est ce qu'a dit déjà Roland Blum. Hein.
D'abord, certains le disent déjà. Donc,
oui, ça va aller en s'amplifiant, j'imagine.
Monsieur Blum est un homme de principe, il parle toujours beaucoup de moralité. Mais,
je rappelle que c'est Roland Blum qui vous a donné la mairie du 11-12 parce qu'il était sous le coup des cumuls du mandat.
Non, c'est parce qu'il en avait marre de la mairie et qu'il ne voulait plus rencontrer la population et que c'est quelque chose qui le fatiguait beaucoup.
Il avait aussi le cumul des mandats.
Il avait aucun cumul des mandats puisqu'il est premier adjoint. Donc quand on est premier adjoint, on peut être maire. Il n'y a aucun cumul des mandats. Et ne quitte pas un mandat parce que le mandat que vous quittez en cumul de mandat, c'est le conseiller municipal. Or, il n'est pas du tout en cumul de mandat, il est parlementaire et il est conseiller municipal, ce qui amène à être soit maire d'arrondissement, soit premier adjoint ou adjoint. Donc, ce n'est pas du tout ça. Donc, déjà, il vous a expliqué quelque chose qui était faux. Donc, et si j'ai pris la mairie de secteur, parce que ça, il le souhaitait ardemment, il ne voulait pas le garder, c'était pour lui une douleur tous les jours, alors que moi, c'est un plaisir tous les jours. J'avais dit...
Vous voulez dire que Roland Blum n'aime pas ses administrés, c'est ça?
Il a du mal à tout supporter le quotidien. C'est dur, c'est difficile. Les gens ne font pas forcément de cadeaux, ils n'ont pas toujours beaucoup d'objectivité. Et moi, je suis bien avec eux.
Vous diriez qu'il y a un mépris de la part de Roland Blum vis-à-vis de la population du 11
jusque-là, mais je crois qu'il avait une grande lassitude. Mais la partie la plus importante, c'est qu'en même temps qu'il y avait la mairie de secteur, il avait pris l'engagement formel de ne plus se renouveler au mandat de député, considérant qu'il avait fait son parcours, son chemin. Donc il en a pris l'engagement à plusieurs reprises. J'ai fait prendre l'engagement vis-à-vis de ses amis qui aujourd'hui me disent « Oui, Robert, c'est vrai, mais vous devriez discuter et faire. » Donc lui, qui est un homme de principe et de moralité, a donné sa parole à plusieurs reprises et ne la tient pas. Donc je n'ai pas à recevoir de leçons de principe ou de moralité de sa part. Si on a un problème aujourd'hui, c'est ça. Le deuxième problème, c'est qu'on va sans doute y venir sur le village des marques. Ça veut veut bien dire que je n'ai pas simplement un problème de personne, mais un problème de projet, de conception de la ville. Le vidage des marques à la Valentine, c'est quelqu'un qui un jour a une idée en disant, tiens, on a un espace de 10 hectares à tel endroit. Tac, si on y faisait le village des marques.
Là-dessus, c'est aussi la bande, vous avez appris ça par la bande, comme vous avez dit vous-même le terme, vous étiez au courant bien avant.
Non. Il y a eu une réunion à l'hôtel de ville, un jour sur tout un sujet totalement différent, et quelqu'un a posé la question, a dit, ouais, on y réfléchit, on pourrait penser ça, donc moi je suis là, je pose pas de questions particulières.
Je rappelle que vous avez juste un avis consultatif quand même, en tant que maire de
secteur. On n'y est pas encore là. Donc là, c'est une réunion à l'hôtel de ville, à la mairie principale, ou dans une réunion, on est une quinzaine, quelqu'un dit, j'ai entendu parler que pourrait y avoir un village de marque. Donc, moi, zéro. Hein. Ça, c'est en janvier, hein. Fin janvier. Donc, moi, je tombe de l'arbre complètement. Mais bon, pas plus que ça, quoi. Il y a une discussion, oui, pourquoi pas, ce serait pas une mauvaise idée, il faudrait qu'on étudie et tout. Là-dessus, 15 jours, 3 semaines après, il vient me voir des personnes qui ont en charge le dossier. Ils disent, on veut faire ça, on veut faire pareil qu'à Romans, on veut faire pareil qu'à côté de Milan, à côté de Barcelone. Oh là là. Ouais, c'est vraiment gros comme projet. Ouais, on a prévu. Si vous avez prévu la voirie, vous avez prévu des stages de transport public, vous avez prévu. Ouais, t'inquiète pas, tout est prévu et tout, magnifique. Il faudra me présenter le projet. Ouais, non, on y travaille et tout. Ça, un dossier comme ça, c'est 12 mois, 15 mois de travail. Donc je me suis dit, je vais travailler toute l'année 2011 là-dessus. Là-dessus, il y a un article dans la Provence qui se fait il y a 15 jours, 3 semaines en arrière. Sophie Manelli. Elle dit, il pourrait y avoir une indiscrétion, probablement un village de marque, machin, un patin, un confin et tout. Et mince, c'est un vendredi ou un samedi que paraît ce papier. J'ai dit, j'aurais pu m'appeler quand même. Lundi, on a lundi qui suit conseil municipal. Lundi après-midi, je l'appelle. Pour dire quand même, Sophie peut m'appeler et tout. Je ne l'ai pas au téléphone, mais elle me rappelle une heure, deux heures après. Elle me dit, ah ouais Robert, ouais, vous comprenez, j'aurais dû le faire, mais on peut le faire maintenant, etc. J'ai dit quand même, je suis le maire de secteur, le maire d'arrondissement, c'est un projet, on parle de 100, 120, 130 millions d'investissements, ça va révolutionner les choses. Oui, non mais Robert, et tout. Ma secrétaire tape à la porte, pendant que je suis au téléphone. Surprenant, généralement, elle ne fait pas ça. Elle dit, ça devrait vous intéresser. Un dossier comme ça, sur le bureau, donc à la radio, comme ça, ça ne marche pas. Donc, 15 centimètres. Lisez, permis de construire. J'ai dit, Sophie, je suis désolé, on n'est plus du tout dans le jeu. Elle me dit, oui, je comprends, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je viens de recevoir le permis. Elle me dit, non, vous n'avez pas le permis. Si, on peut se voir. Ben oui. Ça a complètement changé la relation, d'où l'article qui est sorti. La voirie n'est pas prévue, sortie Ikea sur l'autoroute, pas demandée.
En gros,
la L2 qui n'est pas faite, le métro qui n'est pas prolongé, le tramway qui n'est pas prolongé.
Qui dans cette affaire vous a squeezé en quelque sorte?
Tout le monde.
La mairie centrale?
Tout le monde dans la mairie centrale. Là, le maire, le directeur de cabinet, le premier adjoint, le service d'urbanisme.
Vous vous sentez aujourd'hui comme quantité négligeable, Robert Assante?
Aujourd'hui, je me sens comme quelqu'un qu'on ne consulte pas, qu'on n'écoute pas et qu'on ne veut plus avoir dans la famille.
Ce que vous décrivez là, vous pensez que c'est lié à un règlement de compte politique et personnel, ou est-ce que c'est symptomatique d'un fonctionnement autocratique ou d'une centralisation du pouvoir, enfin d'une mauvaise gouvernance sur Marseille?
Sur ce dossier, je pense que c'est un système de concentration de pouvoir. C'est pas du tout dans un premier temps une mise à l'écart, c'est simplement qu'on a l'habitude de monter des gros dossiers comme ça à 3 ou 4 pendant des mois et des mois, et quand ça arrive à maturité on les prend et tout le monde doit applaudir pour dire que c'est
Robert
merveilleux.
Assante, pour les
c'est
auditeurs,
donc le deuxième volet de ce que vous avez dit.
Pour les auditeurs, Robert Assante, quand vous dites on a l'habitude de se réunir, il y a des réunions par exemple lundi matin avec le maire de Marseille, Claude Bertrand, Renaud Muselier, qui est simple conseiller municipal, je le rappelle quand même.
Parlementaires, ce sont les parlementaires et les maires qui sont invités.
Vous y participez?
Oui, puisque je suis maire.
Et alors, comment se fait-il que, malgré votre participation du lundi matin à ces réunions, vous n'êtes pas au courant de ces projets-là?
Mais si vous ne parlez pas de ce dossier, vous ne pouvez pas le savoir. Si vous n'avez pas une indiscrétion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le cabinet, il y a le service d'urbanisme, il y a tous les élus qui sont de près ou de loin. Mais j'ai découvert aussi que M. Didier Paraquin, si ce n'est pas les marques, puisque lui-même est une marque, il l'apprend par les marques à l'extérieur de la France, il n'est pas plus au courant que moi. Donc, à un moment donné, c'est pas une personnalisation. C'est pour ça que je vous disais que c'est le deuxième volet de ce que vous avez dit. C'est une forme de gouvernance qui, aujourd'hui, de mon point de vue, n'est plus adaptée au développement de la ville.
Mais c'est assez grave. Est-ce que c'est nouveau pour vous ? Enfin, vous êtes quand même co-acteur de cette majorité depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il y a eu une dérive ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps ? Enfin, à quel moment ça bascule
Vous dire à quel moment ça bascule, je ne sais pas. Mais il y a effectivement un moment donné où les choses ont changé. Quand on arrive en 1995, il y a énormément de choses à faire à la ville. La ville, de notre point de vue, est en retard. Elle a été bloquée. Il y a 760 000 habitants, 780 000. Donc, on est en retard sur beaucoup de choses. Et donc, tous les projets éclosent. Donc, tout sort. Donc, quelqu'un demande une école à refaire. On dit oui. Après, c'est une question de programmation. On est d'accord sur tout. Donc, c'est pas de la transparence. C'est qu'il y a tellement de choses à faire que tout le monde a raison.
Là, il y a une gouvernance collégiale, là, à ce moment-là?
Elle est plus que ça. C'est-à-dire que comme tout le monde a raison, c'est plus que la programmation qui décide les choses, c'est-à-dire le budget, l'argent. Mais tout le monde a raison. Vous me demandez d'avoir un stade, on dit oui, il faut faire un stade, il faut faire une école, oui, il faut faire une crèche, oui, il faut faire une voirie, oui, il faut faire un... Oui, tout le monde est d'accord. Donc, on met en place tout ça. Donc, tout ça essaie de rentrer. Il y a une effervescence, il y a un enthousiasme, il y a une volonté, il y a tout à faire. Donc, quand Renaud Muselier, que vous évoquiez tout à l'heure, prend Euroméditerranée, le dossier Euroméditerranée, il faut qu'ils le comprennent, il faut qu'ils sachent ce qu'il y a dedans, il y a des décisions à prendre. Les décisions ne sont pas bonnes, on revient en arrière, on en prend des bonnes, on les met après, mais l'État ne veut pas, après c'est le département qui ne veut pas, on revient en arrière. Donc tout cela se fait dans la... C'est pas de la transparence, c'est que tout le monde parle en même temps pour dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, quoi. Et donc le premier mandat est un super mandat. D'ailleurs, l'élection de Gaudin, le renouvellement, est un plébiscite. Donc c'est merveilleux. Deuxième mandat, on commence à poser les choses.
Deuxième mandat, 2001.
2001-2008, on pose les choses. Donc il y a des grandes orientations à choisir, il y a des grands débats sur le métro. On fait le métro, on prolonge le métro à Saint-Barnabé, on fait le tramway pour aller jusqu'au Cailleul, on définit, Euroméditerranée commence à se poser, il y a des grands axes qui sont à faire, donc le champ de commerce, port autonome, département. Donc les débats sont plus les mêmes et beaucoup plus spécialisés. Moi j'ai le dossier d'incinérateur que vous avez évoqué tout à l'heure, tord le feu, l'incinérateur, c'était pas mal fait. Donc chacun a sa partie. Donc c'est moi qui lance le GIP des Calanques, tout le monde est d'accord, tout le monde est dans la transparence. Mais à la limite, je veux dire, l'information que vous donnez, même vous journalistes, vous n'arrivez plus à retenir. Moi j'ai des journalistes qui m'ont dit, enfin Robert Assant, oui ça c'est bien, ça c'est bon, mais j'ai ça, je peux pas tout couvrir. On n'est plus du tout dans la même définition. Et arrive le mandat de 2008, où là on ne peut plus construire la ville comme avant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse par touches successives à certains endroits pour corriger. Je reprends l'exemple de Euroméditerranée, il faut corriger les choses, donc il faut compléter le dispositif. C'est les dossiers les plus durs qui restent à monter. Et sur le secteur qui est le même, sur le secteur est de la ville, on sait que l'avenir de la ville se fait là, mais elle ne doit pas se faire n'importe comment, dans n'importe quelles conditions. Et donc, des choses, certains y réfléchissent. Alors certains ne sont que de la réflexion. Et puis, à la fin de la réflexion, ils disent, on n'y arrive pas. Donc on peut dire qu'il y a une partie du dossier qui doit être traitée en amont. Mais dès qu'on arrive à une forme de faisabilité, il faut l'ouvrir. Non, ils conservent l'info pour dire on va nous tuer le dossier.
Alors sans parler, on ne va pas utiliser la litote durant toute l'émission, Jean-Claude Gaudin a fait le mandat de trop. Est-ce que c'était lui qui était plus à même en 2008 de reprendre cette mairie ?
Oui, d'après moi, je ne change pas mon engagement de 2008. C'est l'équipe, c'est ceux qui ont été pris, alors peut-être à un ou deux postes près, mais ça c'est marginal, c'est pas important.
Et pourtant aujourd'hui vous êtes en train de critiquer cette gouvernance.
Je critique la nouvelle gouvernance qui est en train de se mettre en place. Quand on demande à mettre des priorités sur la table, il faut qu'on en discute entre tous. C'est vrai que la priorité de Robert Assant, maire d'arrondissement sur le 11e et 12e arrondissement, n'est pas la même priorité que Dominique Tian, maire des 6e et 8e arrondissements. Si on discute ensemble, je peux comprendre son positionnement par rapport à son secteur, d'autant que j'ai été élu très longtemps sur ce secteur. Donc je peux très bien comprendre ce qu'il y a, et lui peut très bien comprendre ce qu'il y a sur mon secteur. Quand on réfléchit aujourd'hui, plus exactement, on ne réfléchit pas. Mais comme c'est un dossier que je connais bien, je l'ai donc anticipé. On dit, à la Caplette, on a fait le palais de la glisse et de la glace. À côté, on doit y faire de nouveau une rénovation urbaine, construction, bureaux, commerce. Mais on a le train des ordures ménagères. Donc il faut l'enlever de cette zone, puisqu'il occupe un espace de 5-6 hectares. Bien, il faut le mettre ailleurs. Dont acte. On peut comprendre par rapport à la Caplette. On va le mettre dans la vallée de l'Uvonne.
Où? Chez vous, en l'occurrence.
Hop, là, tout d'un coup, ça devient très opaque. Hein. Je dis, mais où? Non, mais on ne sait pas, on va voir. Mais moi, je peux vous dire que ça fait 2 ans que ça tourne. Mmh. Je ne sais pas si ça va sortir un jour. Je ne sais pas comment ça va sortir. Mais il y a certains dossiers où j'ai entendu parler de choses, je les ai bloqués.
Mmh. Aujourd'hui, Robert Assante, pour aller très très vite, qui gère la ville de Marseille? On sait que Jean-Claude Gaudin a de multiples fonctions à Paris, qu'il vient d'en avoir une nouvelle qui est très prenante, chef de la majorité au Sénat. Aujourd'hui, qui gère la ville de Marseille?
Ben, comme ça se passait avant, Jean-Claude Gaudin, Renaud Muselier, Claude Bertrand, Jean-Claude Gondard et l'ensemble des élus dans leurs compétences respectives.
Et concrètement?
Et concrètement, c'est ce que je viens de vous dire. Mais vous n'avez pas bien enregistré ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc je vais le répéter.
Allez-y.
L'effervescence de 95 n'est plus la même aujourd'hui.
Alors, on a compris que donc, la gouvernance collégiale s'est réduite comme peau de chagrin.
Et donc, ils se gèrent en petits barons de leurs délégations respectives.
D'accord.
Et il n'y a plus cette effervescence, cette dynamique, cette volonté d'y aller. Et c'est ce qui perd. Et quand quelqu'un a un projet, a une idée, il la garde bien longtemps pour pas que quelqu'un puisse lui enlever. Et c'est ça qu'il faut pas. Il faut mettre sur la table, il faut dire les choses. Et c'est ensemble qu'on arrive à construire un avenir commun. Autrement, on a des dissensions. Autrement, je dis non au village des marques tel qu'il est présenté aujourd'hui. En fait, je dis pas non au village des marques. Je dis que si on veut développer ces 10 hectares, il faut changer la voirie qu'il y a dans le secteur. Et là, tout d'un coup, ils deviennent tout sourds, ils m'entendent plus. Et ça, c'est pas normal.
Est-ce qu'on n'est pas déjà dans une crise de succession? On voit beaucoup de gens se positionner.
Vous avez parlé de baronnie tout à l'heure. Chacun se campe sur son territoire électoral.
Délégataire, délégation, j'ai dit, parler de délégation. Vous avez une nouvelle fois raison. On est dans une définition plus ou moins sensible ou retenue qui fait que beaucoup de gens pensent à l'après-Gaudin. Si l'après-Gaudin, c'était Jean-Claude Gaudin, je n'en sais rien. Il faudrait lui poser la question à lui-même.
Alors, il entretient le mystère, il entretient le doute.
Il vous a dit qu'il s'interdisait rien et quelqu'un d'autre a dit qu'il s'autorisait tout. Mm-hmm. Ben, pendant ce temps-là, que tous les deux réfléchissent dans les deux sens, moi, je travaille.
Mais dans cette guerre, vous vous positionnez où, vous?
Il n'y a pas de guerre. Il y a ce que vous avez dit. Les mots que vous avez employés sont plus justes. On est dans une définition où on a le sentiment que quelque chose est en train de se passer et qu'il y a un peu une fin d'une époque, une fin de peut-être d'un homme ou de quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Et donc, ça permet d'avoir un certain nombre de personnes qui pensent à leur demain personnel plutôt qu'à un projet. Puis il y en a qui n'auront pas de demain. Il y en a qui on leur a dit, vous avez aujourd'hui 74 ans, 76 ans, vous ne serez plus pris. Donc ceux-là, ils n'ont plus la même effervescence que j'évoquais tout à l'heure. Donc on est dans ce que vous avez défini, quelque chose qui est un peu trouble, qui est un peu flou, qui est un peu compliqué à gérer, et avec des dynamismes qui ne sont plus ceux d'il y a 15 ans ou 20 ans.
Mais
arrière.
Est-ce que Jean-Claude Gaudin, comme beaucoup d'hommes politiques, n'a pas une grande difficulté à lâcher, à passer le relais, à désigner des successeurs et,
il vous a fait une déclaration à vous, enfin, pour me poser la question, vous auriez dû l'affirmer. Il l'a fait à vous, quand je dis vous, c'est les journalistes, vous l'avez lu dans la presse, vous avez lu dans Le Point, il a dit mais qu'est-ce que je vais faire si j'arrête de faire de la politique, c'est toute ma vie, donc il faut qu'on me trouve quelque chose qui soit lié à la politique, donc il exprime lui-même, moi je fais que le reprendre, c'est pas moi qui l'ai dit.
Et votre avis là-dessus, vous n'en avez pas?
Moi j'ai un avis, c'est quand on a eu une belle carrière comme ça, quand on a aussi bien réalisé les choses que ça, quand on s'est positionné comme ça depuis 30 ans, 40 ans et qu'on a fait gagner la droite, qu'on a fait gagner la ville de Marseille, qu'on a ouvert l'espérance, qu'on a regagné de la population, il faut savoir gérer sa sortie. Il faut savoir dire à un moment donné, je passe la main, je laisse les choses en ordre et je permets aux uns et aux autres de se positionner. L'héritage est somptueux. Et pour ma part, il n'y aura pas d'inventaire de cet héritage. Il doit prendre cette décision, il doit le faire et il doit commencer à positionner quelqu'un. C'est ce que je pense.
Vous avez un favori, peut-être vous-même d'ailleurs, non?
Moi, le favori de Jean-Claude Gaudin, ça sera celui qui voudra bien faire, mais je crois que la question qui était posée était la bonne question. Est-ce que Jean-Claude Gaudin a compris qu'à un moment donné, il devait accepter que quelqu'un d'autre puisse assumer ses responsabilités? Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il est arrêté ce choix, cette décision. Et c'est un peu troublant. Et les difficultés proviennent d'une partie de cela. Il a trop fait de belles choses depuis 30 ans, 40 ans de la vie politique marseillaise pour ne pas prévoir et organiser au mieux sa sortie.
Mmh. Aujourd'hui, finalement, vous payez le fait de ne pas faire partie de ce cercle intime de Jean-Claude oui. Godin. On parle de, on pense à Blum, à Ruata, oui. à d'autres. C'est ça le...
Blasto, tiens, oui, c'est exact. Pour des raisons que j'ignore, quelque chose qui m'a toujours blessé, parce que j'ai toujours fait un travail énorme, je suis énormément investi, j'ai sacrifié beaucoup de choses de ma vie. Et je n'ai jamais été accepté dans ce cercle de privilégiés, toujours étant considéré comme étant, sans doute vrai, un petit sorti d'Iran, né dans une cité, qui certes sait bien faire quelque chose, mais ne fait pas partie des initiés.
C'est quand même grave ouais, ce que vous nous dites.
C'est quelque
là.
Chose qui me, oui. qui me touche beaucoup et qui me blesse.
On parle quand même de la deuxième ville de France, et vous décrivez un système clanique, on comprend bien qu'en début de carrière, Jean-Claude Godin ait eu des amis, et se soit serré les coudes, etc. Mais après tant d'années, que la gouvernance de la ville repose finalement sur une logique de clan, d'amitié plus que de compétences, c'est quand même curieux, on est dans la deuxième ville de France.
Non, ce que vous dites, là, par contre, je peux pas le partager, parce que c'est une équipe. C'est une équipe qui est née en 1983, au moment où nous avons été élus tous pour la première fois au conseil municipal. À l'époque, il n'y avait que Jean-Claude Godin, il y a peut-être Jean Chélini et Hubert Agostini qui étaient de l'ancienne équipe alliée à Gaston Defer. Et c'est trouvé à ce moment-là des hommes et des femmes qui étaient compétentes, qui étaient volontaires. Donc on a formé une équipe. Et cette équipe compétente est toujours la même aujourd'hui. C'est vrai, il y a peu de nouveaux talents qui ont été ajoutés et agrégés.
On va y aller boyer.
Je parlais de talents. Il y a peu qui ont été agrégés. Et dans une équipe, vous avez une hiérarchie qui se fait. C'est un peu comme dans le foot, où vous avez les titulaires, où vous avez de brillants autres joueurs qu'on couche sur la feuille de match, mais qui ne rentrent que de temps en temps dedans. Et même quand celle-ci est vieillissante, parce que c'est ça le fond du problème, quand cette équipe est vieillissante, on ne fait toujours pas rentrer les jeunes talents, ceux qui en veulent toujours, ceux qui y croient toujours. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je suis un peu blessé de ça. C'est que je ne crois pas avoir démérité depuis que je fais de la politique. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que généralement, tous les dossiers plus difficiles, compliqués ou pourris, on me les a refilés, alors que d'autres étaient plutôt en situation... plus préservés, et c'est toujours eux qu'on met en avant.
C'est par dépit amoureux que, malgré tout, vous allez aller en 2012, quelles que soient les candidatures en face ?
Je n'ai pas de dépit amoureux, je suis dans une situation politique, d'engagement. Quand vous faites un engagement depuis un an, deux ans, trois ans, cinq ans, vous pouvez changer. Quand ça fait 30 ans, ça devient compliqué. Et surtout si vous avez une vision d'avenir de la ville qui n'est plus tout à fait la même. À un moment donné, je ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas fait plus confiance et donné les responsabilités sur le plan national. Mon caractère, ma personnalité auraient permis de faire débloquer beaucoup de dossiers parce qu'à Paris, tous les parlementaires, une fois qu'ils y sont à Paris, on ne sait plus vraiment ce qu'ils font.
La grande tchatche.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille, aujourd'hui un invité, Robert Assante, Michel Guéraud.
Par-dessus ce qu'on vient d'écrire, à savoir ces querelles, cette succession, etc., interne à l'UMP, il y a aussi une co-gouvernance qui vient rajouter de la complexité dans le paysage politique marseillais. Il y a donc une MPM gérée par le Parti Socialiste, lui-même assez divisé. On a un peu l'impression que tout ça crée une situation de blocage, une confusion assez générale. Est-ce que vous avez ce sentiment également ?
Totalement. Je partage complètement ce sentiment. C'est-à-dire que déjà, au sein de la droite, de l'UMP, vous avez un clan avec Renaud Muselier, qui, quand il dit je m'autoriserai tout, ça veut dire qu'il commence à vraiment pousser dans tous les sens. Vous avez Guy Tessier de l'autre côté, qui lui-même ne veut plus de Jean-Claude Godin, qui a toujours été en problème pour Jean-Claude Godin depuis 30 ans. Donc on se retrouve là avec des difficultés. Et on va à la communauté urbaine. La communauté urbaine, il y a une trahison de un certain nombre d'élus qui n'ont pas voté pour celui qui avait été décidé en commun. Donc ça crée des schismes, des difficultés majeures. Et en face, c'est pareil. Parce que Caselli prend ses distances par rapport à Guérini. Menucci est de moins en moins guériniste et de plus en plus...
Menucciiste.
Menucci, c'est ça. Je voulais l'amener, mais c'est Menucci. Pense à Menucci d'abord. Les Verts, on ne sait plus avec qui ils vont, à qui ils s'associent. Le PC est en train de s'allier avec ceux qui passent par là. Et je dirais, à gauche, ne mélangeons pas tout, quoi. Parce que vraiment, on est dans une situation qui est paradoxale.
En gros, c'est un pastis à la communauté urbaine.
Je dirais presque que c'est la bouillabaisse. C'est un mélange dans tous les sens. On ne sait pas ce qui va en sortir. Eugène Caselli me paraît être un homme tout à fait convenable, ordonné, tient ses engagements, tient sa parole dans un contexte particulièrement difficile. Lui, à chaque rapport, il se pose la question, quelle est la majorité qui va voter, quoi. Est-ce une majorité de droite, une majorité de gauche, une majorité d'ailleurs? Donc il a beaucoup de constance dans le contexte difficile dans lequel nous nous trouvons tous. Mais je crois qu'on est à la veille d'une redistribution totale des cartes sur Marseille. Et ce qui se passe avec Jean-Noël Guérini, où il pouvait apparaître comme étant celui qui allait hériter totalement de la ville sans la moindre difficulté, aujourd'hui, ça semble plus du tout être le cas, puisque Sylvie Andrieux, Caselli et Menucci sont clairement opposés à Jean-Noël Guérini. Alors, donc ça va laisser des traces.
Au-delà du renouvellement des générations, on va dire, de l'ambition des uns et des autres. Il se greffe aussi sur cette affaire, sur ces affaires, des problèmes judiciaires, notamment liés au problème des déchets. Alors, votre commentaire, vous...
Mais là, vous ne parlez que de Jean-Noël Guérini et que du Parti Socialiste.
Que du Parti Socialiste, oui. Alors, votre commentaire, vous, qui avez eu ce dossier difficile des déchets, qui siégeait d'ailleurs au Conseil Général, à la Communauté Urbaine, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'enquête du juge Duchesne?
Le moins que je puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Parce que quand on voit... tout ce qui paraît dans la presse, tout ce que vous reprenez, on voit bien qu'il y a eu des dérives qui se sont passées. Des dérives qui sont passées sur le problème des déchets, parce que, semble-t-il, il y a le frère Alexandre Guérini qui est lié à cette activité, et là, depuis des années.
Vous, quand vous aviez en charge le dossier des déchets à la communauté urbaine, Alexandre Guérini gérait déjà des déchetteries. Vous étiez au courant...
C'est pas des déchetteries qu'il gérait, c'est des décharges.
Des décharges, pardon. Vous étiez au courant, vous aviez oui dire de certaines...
Si votre question est de savoir est-ce que j'ai eu l'influence à subir, est-ce qu'on m'a fait passer des messages, est-ce que je devais comprendre un certain nombre de choses? Non. Je n'ai jamais eu ça, je n'ai jamais eu à m'impliquer sur ces dossiers-là, je n'ai rien eu à faire. Je suis sorti de Marseille uniquement lorsqu'il s'est agi de développer et de mettre en place l'idée de l'incinérateur à Fos-sur-Mer, sans sortir de Marseille, jamais ce genre de choses ne s'est passé à mon niveau, de quelque nature que ce soit.
La droite était hermétique aux pressions ?
En tout cas, moi, j'étais totalement hermétique à quoi que ce soit, puisque dans tous les cas, ils avaient dû le comprendre naturellement, puisque personne n'est arrivé à moi pour me faire passer ce type de message. Parce qu'autrement, j'aurais été assez radical dans la réponse à formuler. Cela dit, la décharge du mentor ne dépend pas de Marseille-Provence Métropole. Donc, cette décharge, je n'ai rien eu à y faire et à y participer de quelque nature que ce soit. Donc, tout ce que nous avons fait, c'était bien ou c'était mal. Mais dans tous les cas, c'était réglementaire.
Michel ?
Le Jean-Noël Guérini a plusieurs casseroles accrochées derrière lui. Il y a aussi les débats internes au PS autour de la gestion de la fédération, avec un rapport, une enquête interne, Montebourg qui attaque SEC.
C'est exact.
C'est tout ce qui sort là, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit sur cette fédération, c'est votre adversaire. Ça.
Oui.
Bon, on a l'impression qu'il y a véritablement Renaud Muselier, Bruno Gilles qui sont en pointe là-dessus et qu'il y a une espèce de moderato de la part de Jean-Claude Gaudin, de la part de Guy Tessier, ça peut se comprendre.
Pourquoi ça peut se comprendre?
Parce qu'il gère et parce que la gauche lui a donné la Euroméditerranée quasiment.
Non, je ne savais pas que Guérini, c'était son ami en politique. Il faudrait que vous m'expliquiez ce que vous êtes en train de dire.
En tout cas, les critiques de Guy Tessier sont moins virulentes que celles de Renaud Muselier.
Mais vous avez dit que vous les compreniez. Je ne les sais pas, donc expliquez-moi.
C'est ce que je vous ai dit, parce qu'aujourd'hui, Guy Tessier ne jouait pas à ça, Robert Assante. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, Guy Tessier gère la Euroméditerranée par choix des socialistes.
par choix oui. de Jean-Claude Gaudin et de la majorité qui ont souhaité que ça soit lui qui préside Euroméditerranée, que la communauté urbaine l'a validé et que Guérini l'a accepté pour pas créer une guerre au lendemain des élections municipales.
En 12 phrases, vous avez repris ce que j'ai dit en une phrase, moi, mais allez-y.
Non, parce que c'est son adversaire. Ce n'est pas parce qu'on a une gouvernance partagée qu'on ne doit pas dire un certain nombre de choses. Vous avez oublié Martine Lassalle qui s'exprime largement sur le dossier. Vous avez oublié Yves Morin qui intervient sur ce dossier. Donc,
et vous-même alors, vous-même.
Et moi-même, je suis intervenu au Conseil général des Bouches-du-Rhône. Donc,
est-ce que cette fédération socialiste, c'est une exception
deux
en
fois
France
la même question, oui, non, je ne pourrais pas répondre à la première.
Parce que pour l'instant,
parce que
vous n'avez pas
répondu. Mais c'est allez-y. Parce que votre collègue me faisait de la provocation indirecte à l'instant que j'en ai usé moi aussi. Donc, par rapport à la gestion du Parti Socialiste, c'est quelque chose qui est aujourd'hui mis sur le devant de la scène, mais que nous entendions chez les encartés socialistes depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui est nouveau, ce que dit Montebourg. Il a le courage de le dire très fort. Et on ne comprend vraiment pas pourquoi Martine Aubry est restée silencieuse. Comment Martine Aubry est au Parti Socialiste depuis 30 ans ou 40 ans, elle a toujours entendu parler de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône, n'a jamais pris aucune disposition et dit ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône, c'est faux ce que dit Montebourg, il a fait un rapport, j'ai jamais eu. Ah oui, après je l'ai eu, mais il n'y a rien dedans. Mais il vous apporte des preuves supplémentaires. Non, mais c'est pas moi qui le fais, c'est Richard, il fait la commission, il s'en occupe. Mais vous, non, mais je ne dis pas. Comment Martine Aubry, qui veut se présenter à l'élection à la candidature aux primaires socialistes pour être candidat à l'élection présidentielle, n'a pas le courage de dire à Jean-Noël Guérini, tu ne peux pas te présenter à la présidence du Conseil général des Bouches-du-Rhône compte tenu de tout ce qui t'entoure, de tout ce qu'il y a à la fédération. Si elle n'a pas ce courage-là, comment voulez-vous qu'elle ait le courage de gérer le pays ? Donc les socialistes dans les Bouches-du-Rhône ont un véritable problème de démocratie et de gestion. C'est une évidence pour tout le monde.
Vous, en tant que conseiller général, vous dites Jean-Noël Guérini n'est pas crédible pour être le président du Conseil général ?
N'était pas celui qui devait se présenter pour présider. Et il s'est présenté parce que le Parti Socialiste n'a rien dit, il a été élu confortablement.
Avec trois voix de droite.
Ouais, voilà, avec trois voix de droite.
Trois voix qui ne sont pas au groupe UMP, Nouveau Centre et Apparenté, je préfère le préciser, donc ils sont indépendants de ça. Certains n'avaient pas l'investiture, d'ailleurs, aucun des trois n'avait l'investiture.
Vous, d'ailleurs, par dépit, avec toutes les histoires vis-à-vis de l'UMP, vous auriez pu voter, puisque le vote était secret, vous auriez pu voter pour Jean-Noël Guérini ?
Non, parce que s'opposer à son propre camp, s'opposer à un certain nombre d'orientations et de définitions, veut dire un certain nombre de choses quand vous appartenez à la majorité. Mais quand il faut voter le budget de la ville de Marseille qui s'est fait il n'y a pas longtemps, je l'ai voté. Car sur l'ensemble des choses qui sont proposées, des dossiers que nous avons à gérer, j'y adhère. Et c'est le protocole d'accord que nous avions eu sur le programme sur lequel je me suis présenté. Donc il ne faut pas trahir son camp. On peut, à l'intérieur de son camp, avoir des vues divergentes. Ne pas tout partager, ce n'est pas la même chose. Donc je sais bien que beaucoup de gens auraient aimé que je fasse cela. Il n'est pas question que
on
je fasse
demandé.
Cela. Non, on ne me l'a pas demandé, mais dans mon camp, beaucoup en ont eu peur. Mais j'aurais dit, ou vous me faites confiance, ou vous ne me faites pas confiance. On est toujours dans cette relation compliquée où on veut des affidés, on veut des supplétifs, mais on se dit, tiens, mais est-ce qu'il va pouvoir faire ça, il va pouvoir faire ça. Ou vous me faites confiance, ou vous ne me faites pas confiance. Si vous me retirez la confiance, vous me rendez libre totalement, mais dites-le sur la place publique. Arrêtez de faire les faux culs.
Michel ?
Il y a des choses qui semblent assez constantes entre la gestion UMP, la gestion socialiste, par exemple la MPM. Je prends l'exemple des rapports avec le syndicat Force Ouvrière qui apparaît souvent aussi dans les débats autour et dans les discussions qui se posent autour de la gestion des déchets. Un mot là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas sortir d'un système finalement hérité des années de fer où il y a un syndicat unique qui semble se mêler un petit peu de tout on parlait de co-gestion très centralisée autour du cabinet du maire par exemple. Est-ce que ça, il ne faudrait pas passer à autre chose ?
En tout cas, c'est une évidence qu'il y a une transversalité de FO qui va de la grande droite jusqu'au grand PS. Quoi. Et c'est évident qu'ils sont transcourants. Hein,
Aujourd'hui, on peut dire que...
Et donc, votre analyse là-dessus met simplement en évidence une réalité.
L'héritage... Aujourd'hui, Argis, c'est le vrai patron de la ville, en quelque sorte.
Non, c'est pas lui le patron de la ville. Le patron de la ville, c'est Jean-Claude Gaudin.
Argis... Oui, mais quand Jean-Claude Gaudin s'affaiblit, on peut le dire comme ça, je le résume, je le mets dans avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette crise de succession, etc. Est-ce que justement le syndicat FO ne représente pas vraiment le centre du pouvoir aujourd'hui dans cette ville?
Non.
Par défaut.
Non, même si vous posez la question trois fois, je vous dirais non, il ne représente pas le centre du pouvoir. Le centre du pouvoir, c'est le maire, c'est le cabinet, c'est le secrétaire général, ce sont les élus,
alors,
maire.
Alors, je reprends encore une
laissez-moi
fois, le patron de MPM.
Vous m'invitez pour que je parle, oui, et ensuite vous faites pour que je ne parle pas. Oui, c'est pas sympa, quoi.
Alors, Robert Assange,
laissez-moi
le patron.
Il a posé deux fois la même question.
Oui, mais je vous la repose une troisième fois. L'impuissance des politiques aujourd'hui, le patron de MPM, Eugène Caselli, vient de dire à la presse, qui est quand même une première, il a avoué son impuissance en matière de nettoiement de cette ville. En évoquant plus ou moins directement le rôle des syndicats, la difficulté à travailler ensemble pour la propreté de cette ville. Une fois de plus, est-ce que le syndicat FO n'est pas au centre de tout dans cette ville?
C'est différent. C'est différent. C'est pas la question qui a été posée par votre collègue. C'est est-ce que c'est Argy, le patron de la ville, de la communauté urbaine, vous dites est au centre. C'est toute la nuance que je voulais mettre. Le patron, c'est le maire de Marseille, c'est le cabinet, c'est le premier adjoint, c'est les élus, c'est les députés, les maires, ceux qui ont délégation. À la communauté urbaine aussi se trouve en transversalité droite et gauche, comme je l'évoquais à l'instant, est faux. Et qui se veut être dans les deux collectivités. On n'a pas coupé le cordon ombilical entre les deux collectivités de ce point de vue-là. Je me demande si à un moment donné, il ne va pas falloir que ces deux collectivités soient vraiment indépendantes l'une de l'autre et qu'il n'y ait plus de tutelle au niveau des personnels d'intervenir chez l'un et chez l'autre. Est-ce qu'il est au centre du débat et de l'actualité du personnel municipal? Oui. Parce que celui-ci ne peut pas influencer, ne peut pas diriger, ne peut pas démontrer des orientations. C'est ni son rôle, ni il en a la capacité, ni la compétence. Par contre, dans un certain nombre de choses qui peuvent se passer, compte tenu de la guerre des syndicats qui existent aujourd'hui, compte tenu des positionnements des uns vis-à-vis des autres, oui, FO est au centre de l'actualité du personnel et pas toujours dans les bonnes conditions, parce qu'on parle de Gaston Defferre, mais Gaston Defferre est décédé dans le fauteuil de maire en 1986, le 7 mai 86. Depuis, de l'eau a passé. Vous étiez né, vous, en 86?
Depuis, le Force ouvrière est toujours le syndicat. Alors, est-ce que c'est une anomalie?
En 86.
Donc, vous êtes né en 86.
Avant,
donc,
avant
vous
86.
Êtes né à, pratiquement à 70. La fin de Gaston Defferre. Donc, ce système qui a été mis à l'époque dans des conditions qui étaient celles de l'époque, est-ce qu'aujourd'hui, c'est celle qu'il faut continuer à faire perdurer? La question que vous posez, c'est la question que nous posons en interne. Est-ce que
alors,
cette
qui
façon
vous,
de.
Qui ça, vous, parce qu'on a l'impression que vous êtes le seul à vous la poser, cette question en interne.
Oui, peut-être. Parce que moi je suis celui qui le dit, comment on peut essayer de faire en sorte que les féodalités tombent? Le fini parti, quelqu'un a fait la promesse, avec moi c'est fini, dans 6 mois on n'en parle plus.
Jean-Noël Guérini.
Mort, ça n'a jamais fait, ils ne sont pas arrivés. Les gens travaillent la nuit 2 heures, 3 heures, pourquoi? Pourquoi dans la journée, il y a certains endroits où on ne fait pas travailler? Savez-vous combien il y a de personnes qui travaillent à la communauté urbaine sur le service de la propreté pour les 18 communes? 2 000, 2 200 personnes, plus les 500 qui sont dans le privé. Et quand vous êtes sur un secteur, vous avez un élu communautaire qui se fait lyncher par la population quand il dit, eh ben, sur le secteur, je peux vous assurer que vous avez 38 personnes pour la collecte et la propreté. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Ils sont où? Ils sont pas tous au syndicat, ils sont pas tous en train de faire des papiers dans les bureaux.
La solution,
donc, la réorganisation totale de ces services, en ayant le point faible, il est simple, c'est les agents de maîtrise. Ça vient pas des ingénieurs et des cadres supérieurs, ça vient pas du personnel qui est en bas sur le terrain. Ce sont les agents de maîtrise qui ne font pas leur boulot, qui ne contrôlent pas le travail sur le terrain et qui n'ont pas le courage d'aller voir les gars. Il faut que tu fasses aussi cela, parce que après.
Alors c'est un manque de courage ou une complicité?
C'est un manque, de mon point de vue, d'autorité de la part des agents qui sont là pour vérifier le travail, les agents de maîtrise, manque d'autorité sur les personnels, mais en même temps, ils sont issus par la volonté de FO du rang. Et donc, quand on est tous les trois, là, ce matin, on a travaillé ensemble, on a fait les cantonniers, on a fait les boueurs pendant des années, et puis le jeune homme qui est là, lui, il devient le chef. Mais on connaît toutes ses carences, on connaît toutes ses difficultés, on sait tout ce qu'il a fait de travers. Et il vient nous expliquer à nous, tous les deux, le travail, comment il doit le faire. Ils doivent muter, ils veulent pas. Donc on a une gouvernance à l'intérieur de ce service qui doit changer, et avec des agents de maîtrise forts. et c'est eux qui font le tempo. Ce qui a été réfléchi au niveau des cadres, eh bien, ceux qui font sur le travail, ceux qui doivent travailler le font. Au milieu, personne ne contrôle personne.
Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous étiez à la tête de la communauté?
Et c'est pour ça que ça marchait mieux. Et c'est pour ça que ça marchait beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, la tendance à dire, c'est de dire, mais finalement, pourquoi on ne donne pas la responsabilité à Robert Assand? Robert Assand est tranquille, là, pour l'instant. On dit, on va mettre Robert Assand, c'est lui qui va nous trouver les solutions, c'est lui qui va essayer de faire... Oh, écoutez, je suis maire, je m'occupe de mon secteur, je fais un certain nombre de choses pour améliorer le cadre de vie des habitants du 11e et 12e arrondissement. Ah, 120 000 habitants, je peux vous dire, c'est pas toujours facile.
Hein. Là, on parlait des déchets, mais on retrouve le problème ailleurs. Il y a eu une grève interminable au niveau des tatas, le personnel des cantines. Ils souhaitaient simplement, c'était des syndicats minoritaires, être reçus pour discuter, dialoguer, dialogue social classique. Ça a duré des semaines parce qu'ils n'étaient pas reçus parce qu'ils étaient d'un syndicat minoritaire. Idem, Marseille, deuxième ville de France, bientôt capitale européenne de la culture, qui n'a plus de directeur des musées parce qu'il y a un conflit.
Les bibliothèques également.
Bibliothèques. Et là, à nouveau, même problématique d'un syndicat majoritaire.
Alors, quoi faire pour se débarrasser des faux, concrètement?
Se débarrasser, ou en tout cas...
En
tout cas, changer leur rapport.
Là, vous êtes allé un peu trop loin.
Est-ce que le fait que Jean-Claude Godin...
est un syndicat qui est très positif, qui défend bien les catégories
professionnelles. Alors, Robert Assand, tu m'exprimes autrement.
Je préfère vis-à-vis des faux.
Est-ce que le fait que Jean-Claude Godin aille aux réunions des faux, est-ce que le syndicat, l'interlocuteur principal, est faux, encourage ce syndicat à s'enquister dans des pratiques qui n'ont plus lieu aujourd'hui?
Peut-être. Mais dans tous les cas, c'est seul et faux qui invite Jean-Claude Godin. Donc si les autres syndicats l'invitaient, ils pourraient répondre oui, ils pourraient répondre non. En tous les cas, vous dites il va et faux, mais c'est parce que c'est faux qu'il invite à venir. Quand on dit à l'instant, il pourrait recevoir les autres. Il doit y avoir un débat. C'est parce qu'autrement, en France, le président de la République ne discuterait qu'avec l'UMP. Et comme les autres sont minoritaires, on discuterait avec personne, il consulterait personne, il ne ferait jamais rien, nulle part. Non, il faut consulter, il faut échanger. Il faut essayer de construire quelque chose de futur. Il faut reconnaître à EFO que c'est lui qui gagne les élections internes et que c'est le syndicat majoritaire en interne, à l'intérieur des services de la communauté urbaine et de la ville de Marseille. Mais il y a une gouvernance à changer avec EFO municipaux.
Là aussi, c'est une question de génération. Comme il y aura un changement de génération des hommes politiques, il y aura également à la tête...
Je pense aussi parce qu'on a des pratiques qui remontent à celles qui avaient été mises en place par François Moscati avec Gaston Defferre. Donc pour contrecarrer la CGT. Donc c'est très simple. C'était ça, la base même de ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même définition. Faire les grèves des tatas, c'est un scandale. C'est comme faire aussi le service minimum pour les grèves. J'y crois pas, je me gondole quand je vois ça. Un service minimum pour les transports, pour les tatas dans les crèches, etc. Ça marche pas. Et quand j'entends un parlementaire, Roland Blum, dit il faut faire le service minimum pendant la grève des éboueurs pour qu'on puisse faire un certain nombre de choses, vous voulez que je vous fasse le sketch de ce qui se passe dans les services, dans le cantonnement, quand il y a un service minimum? Il y a un type qui arrive et dit oh, il y a un service minimum, qui veut le faire? Personne. Il y en a deux qui lèvent la main, il y a tout le monde qui les entoure et qui les tape sur la tête en disant « Attends, les heures supplémentaires, t'en fais plus, le travail au black, t'en fais plus, et ta femme, la promotion, elle y est plus. » Et puis si jamais on arrive à trouver deux éboueurs qui ont envie d'aller faire le service minimum, il faut trouver un chauffeur. Et le chauffeur, il dit « Ah, il n'y en a pas, alors je ne peux pas. » Et quand il trouve un chauffeur, il est de notre secteur. Il dit « Mais je ne connais pas la tournée de là, donc c'est eux qui viennent ou c'est moi qui vais à eux ?» Et pour entériner ça, il faut trouver un chef. Et le chef est en grève, donc il faut en trouver un qui actionne le service minimum, qui soit confirmé par un cadre. Et encore, je vous la fais courte ici, parce qu'on est à la radio, c'est un scandale. C'est un emplâtre sur une jambe de bois. Ce que propose Roland Blum, je suis totalement opposé depuis le début. Qu'il ait le courage de dire que quand on a des grèves, passer le 3e, 4e, 5e jour de grève, il y ait un service de réquisition qui soit demandé. Et que le service de réquisition, là, le personnel ne peut pas se dérober, il le fait. Oh, il le fait pas pour tout. Il fait pour les hôpitaux, pour les maisons de retraite, les crèches, les haltes garderies, les écoles, les centres médicaux. Mais que là, ça soit enlevé immédiatement. Pourquoi ils n'ont pas le courage de tout signer, ces parlementaires, pour obtenir cette demande-là, que veut la population d'ailleurs, puisqu'ils nous disent qu'ils sont toujours en phase avec la population.
En gros, vous dites que les parlementaires de la majorité, en l'occurrence, les parlementaires...
Je les trouve très très faibles. Je les trouve
UMP ont un double langage et sont pas vraiment...
Ouais, ils ont un double langage, certains, ça c'est indéniable. Là, vous pouvez... C'est une affirmation. Mais ce qu'il y a, c'est que je les sens très modestes. À Paris, très effacé, très en retrait. Quoi. C'est à Paris qu'il doit taper sur la table. Un autre exemple, la L2. La L2, le dossier, est commencé dans les années 80. dans la concertation, il commençait déjà depuis des années, mais dans la concertation réelle, on exproprie, on se dispute, etc. C'est grave, c'est difficile pour les gens. Il y en a qui ont tout perdu, parce que les prix d'expropriation des années 80 et celles d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Hein. Commence les travaux 95-96. Messieurs, c'est toujours pas fini. Et si vous pouvez me dire l'un et l'autre la date à laquelle on va le mettre en fonctionnement, ça me ferait plaisir, parce qu'on va parler de 2012. Ah, c'est fini, 2012. 2013, on tient encore, mais plus sûrement 2014. Et moi, je dis 2015. Ah, c'est pas impossible. Qu'est-ce que c'est, ce scandale? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les parlementaires, à Paris? Qu'est-ce qu'ils ont allé demander 100 millions d'euros supplémentaires ou 200 millions d'euros supplémentaires à l'État pour finir ce chantier dans les délais? On attend 80 000 à 100 000 véhicules jour sur l'L2. Ils sont où, ces voitures? Dans tout le trafic parasitaire de surface, dans toutes les rues de Marseille, de tous les côtés que vous pouvez faire. C'est scandaleux. Ils ont fait quoi là-haut? Ils sont allés au cocktail? Non, c'est vrai? Vous pensez ça, vous, hein? Voilà. Ben, moi aussi.
Robert Assant, on a l'impression quand même que, y compris les parlementaires que vous venez d'évoquer à demi-mot, et même franchement, la droite manque sincèrement de projet pour l'avenir.
Je pense que il y a effectivement, aujourd'hui, on n'est plus dans une définition de projet comme on était dans les années 80 et 95 quand on l'a mis en application. Je ne ressens pas le dessein pour demain. Or, le dessein pour demain passe par un aménagement de voirie et de transport. On ne peut plus développer la ville.
On peut gagner des élections à Marseille et faire, en tout cas, mettre comme projet principal la voirie pour la deuxième ville de France ?
Il faut réaménager la ville. Si vous voulez développer le village des Marques, si vous n'avez rien qui va jusque-là, comment voulez-vous que ça puisse marcher ? Demain, il va y avoir un autre projet. On ne le fait pas non plus. Et vous avez cette définition-là, donc il faut aménager la ville, il faut avoir le courage de mettre en plan d'occupation des sols au PLU, de la voirie, du transport collectif qui doit se déplacer, qui doit s'agrandir, qui doit se développer, notamment jusqu'à la Valentine, lieu de vie, jusqu'à la vallée Luvonne, où il y a énormément de cités, donc énormément de personnes qui prennent ce transport collectif, mais on doit aussi améliorer la qualité de vie, c'est-à-dire qu'on doit faire une pause dans ce qui est construction, dans ce qui est volonté de créer, de mettre en place. Il faut améliorer la qualité de vie. Jean-Claude Gaudin a superbement réussi avec les écoles. Pourquoi on ne fait pas la même chose dans la voirie, dans les parcs, dans les jardins, dans les lieux culturels, sportifs? C'est ça, améliorer la qualité de vie. Mais pas la culture à la criée, grande culture. La culture que l'on fait dans les quartiers, que l'on fait au travers des associations, au travers la vie d'un quotidien que l'on peut avoir. On a tous trouvé, et certains de vos collègues que vous devez connaître, ont inventé les tournées théâtrales dans le massif de la Trail, hein, pédestre. C'est super, j'ai assisté, je les ai suivis, c'est magnifique. Et cela est venu par rapport à Pagnol pour reprendre les pièces. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de salle. Et donc l'équipe a eu l'idée géniale, hein, ceux qui ont pensé ça, l'idée géniale de dire, mais finalement, on va à la Trail, on va se retrouver un lieu en public.
Vous êtes en train de dire que M. Mangian manque d'idées
Je dis, votre question, c'est de dire, est-ce que pour demain, qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai dit, il faut structurer la ville, il faut y faire le transport et développer le transport non polluant, et ensuite, il faut améliorer la qualité de la vie avant de passer à une nouvelle étape. Aujourd'hui, les gens veulent bien vivre dans cette ville. Mais pour bien vivre dans cette ville, il faut améliorer le quotidien. Il faut faire en sorte qu'on se sente bien sur le Vieux-Port, comme à la Treille, comme au Goud, mais aussi comme à l'Estac, de partout dans Marseille, qu'on se sente bien, qu'on vive bien, qu'on soit sécurisé. C'est ça, mon projet pour demain. Aujourd'hui, il est partagé par vous, et je vous en remercie énormément.
Vous êtes candidat pour 2014, Robert Assant ?
Je ne le suis pas aujourd'hui, mais à force de me poser la question et à force de réfléchir à l'avenir dans le Marseille, certains vont finir par me dire que je pourrais l'être et que je pourrais apporter quelque chose au débat. Si c'est ça, je le ferai. Si c'est pour rien apporter d'autre, je le ferai pas. Car moi, ce que je souhaite, c'est qu'à Marseille, ça soit plus belle la vie tous les jours.
Merci Robert Assant. Juste pour conclure cette émission un petit peu particulière, une pensée et un hommage pour un camarade de l'équipe qui, hélas, nous a quittés trop tôt, notre maquettiste Marc Touquet, compagnon depuis la première heure, fidèle et amoureux de ce journal. Toutes nos pensées donc à sa famille et à ses enfants. Allez, bye.